France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7.
Il est 6h19. La France va donc se reconfiner. Comment surmonter cette nouvelle épreuve d'un point de vue psychologique? Car la mesure a des effets sur notre santé mentale. C'est ce que montre une étude menée par des psychiatres lyonnais au printemps dernier. Vous êtes à l'origine de cette enquête, Nicolas Franck. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en psychiatrie, chef de pôle au centre hospitalier Le Vinatier à Bron, dans la métropole lyonnaise. Et parallèlement à cette étude, vous avez aussi écrit un livre qui vient de sortir et qui s'intitule « Covid-19 et détresse psychologique ». Ce nouveau confinement, vous pensez qu'il sera plus difficile ou plus facile à vivre que le premier ?
Je pense que globalement, il sera plus difficile parce que le contexte s'est aggravé, parce que l'épidémie et ses conséquences s'inscrivent dans la durée. Moi, j'ai entendu hier soir des manifestations de détresse et de révolte qui commençaient à se mettre en place, qu'on n'avait pas lors du confinement de mars. En revanche, ce qui est positif, c'est qu'on connaît les effets positifs et délétères du premier confinement, qu'on va pouvoir en tirer parti.
Quand vous parlez de manifestations de détresse et de révolte, de quoi s'agit-il ?
Des gens, des restaurateurs qui ne veulent pas se confiner parce que ils n'ont plus la capacité économique de résister à cette nouvelle fermeture. J'ai entendu ça hier soir sur une chaîne de télévision.
Et de votre point de vue, d'un point de vue donc psychiatrique, de point de vue de la santé mentale, pourquoi c'est si difficile à vivre un confinement ?
C'est très difficile à vivre parce qu'il y a d'abord une contrainte en termes de restriction, de liberté, de circulation, et que l'être humain a besoin de pouvoir bouger à volonté. Et parce qu'il y a également un isolement social qui est imposé, et que l'être humain est un être social et a besoin de contacts qui ne sont pas restreints à ce point-là. Et c'est particulièrement difficile pour les personnes qui sont confinées seules, et c'est à elles que je pense en ce moment-là. En ce moment, parce que être confiné à plusieurs, c'est partager quelque chose, c'est éventuellement aller de l'avant, c'est construire quelque chose pendant le confinement qui peut être spécifique, et puis c'est partager des moments qui sont un peu exceptionnels. C'est déjà difficile parce qu'il y a des contraintes dont on parlait avant, mais néanmoins, l'isolement complet n'est pas là. Mais là, je pense à ceux qui ont été isolés tout seuls pendant 2 mois au printemps et qui vont de nouveau être isolés seuls. Et pour cela, je crois que ça va être très dur et qu'il faut qu'ils sachent se faire aider.
Et justement, à travers l'étude que vous avez menée au printemps et qui a recueilli plus de 20 000 témoignages sur Internet, qu'est-ce qui ressort de cette étude ? Quelles sont les personnes qui ont le plus mal vécu le premier confinement ?
Alors, les personnes les plus jeunes, les personnes qui vivaient dans de petites surfaces, les personnes qui n'avaient pas de travail... Et puis les personnes qui avaient des difficultés jusque-là, y compris des difficultés psychologiques.
Pas les retraités, pas les seniors, pas les personnes en EHPAD ?
Alors les personnes en EHPAD, nous n'avons pas eu de réponse ou pas beaucoup de personnes en EHPAD, c'est difficile de les identifier.
Bien sûr.
En tout cas, ce que je peux dire, c'est peu de personnes en collectivité. Nous avons eu de nombreuses personnes qui vivaient en couple ou en famille, de nombreuses personnes qui vivaient seules, mais en collectivité très peu, et puis pas beaucoup de personnes entre 80 et 100 ans, même si nous en avons eu. Le record, c'était 101 ans, avec l'échantillon, oui quand même, ça allait de 12 ans à 101 ans, mais nous avons analysé entre 16 ans et 101 ans.
Et les retraités alors ?
Alors les retraités, au contraire, l'ont mieux vécu que les plus jeunes.
Ah bon ?
Plus l'âge était avancé, mieux les personnes vivaient le confinement. Ça, c'est tout à fait significatif. C'est bien pire à 16 ans qu'à 80 ou à 100 ans.
Et est-ce que tout le monde l'a mal vécu ou est-ce qu'il y a eu parfois des effets positifs ?
Alors, les effets positifs, on peut pas les déduire de l'enquête. L'enquête montre qu'effectivement, en moyenne, certaines catégories, celles que je citais avant, l'ont beaucoup plus mal vécu que d'autres. Les plus jeunes, les personnes sans travail, etc., etc. Après, nous avons des cas individuels, des gens qui nous ont rapporté, et puis on l'a entendu à la radio à l'instant, des gens qui l'ont bien vécu, qui vont rentrer de nouveau dans un cercle, dans une période un petit peu exceptionnelle pour elles, qu'elles ont positivé, parce qu'elles ont construit quelque chose. Ça, on l'a entendu à l'instant.
Et pour les personnes qui le vivent mal, quelles sont les conséquences ? Est-ce que c'est juste un gros coup de mou ou ça peut aller jusqu'à la dépression ?
Ça peut aller jusqu'à une anxiété clinique, vraiment exprimée sous forme d'une maladie. Ça peut aller à la dépression. Dans certains cas, les cas les plus difficiles, ça peut être un stress post-traumatique. C'est ce qu'on avait remarqué dans toutes les épidémies. Ça a été vu dans celle-ci. Ce que nous avons mesuré dans l'enquête, c'est une baisse de bien-être mental. C'est l'effet du stress. Le stress est spécifique. Il altère notre bien-être. Et à un certain moment, quand le bien-être va baisser trop, il va franchir un seuil, et là on peut entrer dans l'expression de troubles sous forme de maladie, anxiété, pathologique ou dépression.
Et est-ce qu'il peut y avoir des séquelles psychologiques durables ou est-ce que tout disparaît avec le déconfinement ?
Alors pour une bonne partie des gens, tout va disparaître, parce qu'effectivement ils sont anxieux du fait de la période et puis finalement ils vont récupérer derrière, mais d'autres auront franchi le seuil de la pathologie qui va s'autonomiser et va rester sous forme d'un trouble anxieux, d'une dépression plus durable.
Et notamment pour les personnes à qui ce confinement a créé des dépendances, là ça va être plus compliqué d'en sortir.
Oui, alors les dépendances principales, c'était les dépendances aux écrans et puis une augmentation également de la consommation d'alcool qui a échappé pour une partie de la population.
Est-ce que ça peut entraîner aussi, je sais pas, des TOC, des phobies, des choses comme ça?
Alors en fait, tout dépend de la vulnérabilité de chacun. Certains sont plus fragiles du point de vue effectivement de la dimension obsessionnelle, de la dimension anxieuse, de la dimension, mais ça peut être la dimension autistique, la dimension psychotique, etc. Chacun a son seuil de fragilité qui peut ne jamais s'exprimer sous forme de maladie au cours de sa vie. Ou parfois, du fait du stress, à spécifique comme celui-ci ou un autre, faire entrer dans la maladie. Et après, ben, c'est plus difficile d'en sortir, il faut se faire accompagner, il faut se faire soigner.
Et est-ce qu'il y a quand même des choses à faire tout seul? Là, vous parlez de se faire accompagner pour les cas les plus graves, mais est-ce qu'au quotidien, chacun d'entre nous, voilà, est-ce que vous avez des petits conseils à nous donner?
Oui, complètement. Ben, les trois conseils importants, c'est ne pas rester seul, donc être en contact tout en respectant les consignes, évidemment, par téléphone, par les réseaux sociaux, ou échanger avec les gens avec lesquels on vit, et garder des relations positives, c'est structurer ses journées, pour ne pas que l'alimentation, le sommeil se déstructurent, ou que vous y avez fait allusion juste avant, le temps professionnel envahisse le temps privé. Et puis, c'est se fixer un objectif de confinement, la troisième consigne, à mon avis. C'est-à-dire essayer de construire quelque chose qui soit propre à la période et qui soit positif. Et ça peut recouper les deux premiers objectifs. Bah, certains s'étaient mis à la cuisine, on l'a également entendu à l'instant. Mais certains ont pu construire quelque chose. Bah, moi, j'ai écrit un livre pendant le premier confinement, vous l'avez cité. Et puis d'autres, ça peut être, je sais pas, faire un patchwork ou, enfin, ce qui plaît à chacun.
Et dans votre livre.
Mais lié au confinement.
Dans votre livre, d'ailleurs, il y a aussi tout un passage intéressant. Parce que vous avez étudié aussi les effets de l'isolement au sens large, hein. Pas seulement notre confinement
oui,
à nous. Vous avez des chapitres sur les astronautes, les navigateurs solitaires, les sous-mariniers, les prisonniers aussi. Oui. Que nous apprennent ces expériences d'enfermement? Est-ce qu'il y a forcément un effet sur notre psychisme?
Eh bien justement, oui, moi l'intérêt, enfin je me suis demandé comment la population française allait supporter ça, et comment dans d'autres conditions un peu du même ordre, l'être humain supportait de telles conditions d'isolement social, et puis de restrictions de circulation, et dans tous les cas il y a des conséquences. Dans tous les cas, effectivement, ça impacte l'être humain et ça le fait souffrir.
Même quand c'est situation qui est choisie? Parce que par exemple pour les navigateurs solitaires, c'est eux qui décident de partir.
Oui, c'est choisi. C'est plus facile quand c'est choisi et quand il y a un entraînement, comme pour les astronautes, les navigateurs solitaires, etc. Mais vous avez eu le cas de ce navigateur solitaire qui a fait le tour du monde et qui a eu des hallucinations à un moment donné et qui a fini par disparaître en mer. C'était le premier tour du monde en solitaire vers 1900 à peu près.
Et voilà, il y a d'autres exemples dans ce livre très intéressant que vous avez écrit qui s'appelle Covid-19 et détresse psychologique. C'est chez Odile Jacob. Merci beaucoup, Nicolas Franck. Vous étiez l'invité du 5-7.